France Info.
Et voici France Info Junior sur France Info. En ce 8 mai, on prend la machine à remonter le temps. On va se demander comment vivaient les enfants pendant la Seconde Guerre mondiale. Nos petits journalistes sont là, Paul, Nina, Nicolas, tous les trois en 6e au collège Lafayette de Châteauroux. Et pour répondre à toutes leurs questions, notre invité est là en studio. Bonjour Tony Péchanski.
Bonjour.
Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Et tout de suite, Nicolas, une question pour vous.
C'est à partir de quel âge qu'il devait aller à la guerre, se battre?
Il pose une bonne question, Nicolas. Parce que, bon, là, il y a évidemment l'engagement officiel. Et là, il faut avoir rempli les obligations militaires, donc être majeur pour être rapide. Et ça, c'est l'engagement de 39-40. Mais il y a aussi des engagements clandestins. C'est la résistance. Et l'engagement clandestin, on ne demandait pas l'âge. Hein, mais voilà, alors donc on trouve des jeunes, quand même un peu plus âgés, 15 ans, 16 ans, 17 ans, des gens comme Krasuki, qui a été déporté, Guy Moquet, qui a été exécuté, fusillé. Ça, c'est des résistants qui, malgré leur jeune âge, ont décidé de se battre pour la France.
Une question de Paul.
Est-ce qu'ils avaient assez d'argent pour s'acheter à manger ou des habits et des jouets?
Mais là, Paul, le problème, c'est que à l'époque, c'était le temps, ce qu'on appelle le temps des restrictions, le temps des pénuries. Et donc, non seulement ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais en plus, on leur imposait des restrictions, c'est-à-dire qu'ils avaient des cartes d'alimentation et ils avaient des tickets d'alimentation et ils ne pouvaient pas s'acheter plus qu'une certaine quantité de pain, s'il y en avait, ou d'œufs, ou de beurre, etc. Et ça, ça a été très dur pour ces enfants, et en particulier en milieu urbain. C'était plus simple, évidemment, en milieu rural, où on pouvait vivre tant bien que mal avec ce qu'on avait sur place.
Les questions de Nicolas.
Il y avait des problèmes pour l'école ou pas? C'était plus difficile de travailler et tout, vu que c'était plus préoccupé par l'armée et tout?
Ah, mais il y avait des problèmes à l'école, et en particulier parce que souvent le père n'était pas là. Il y a eu 2 millions de prisonniers de guerre, puis il y avait ceux qui ont été déportés, donc ça a été compliqué pour les enfants à ce moment-là. Et à l'école, en plus, il y avait à la différence d'aujourd'hui, il y a une volonté d'endoctrinement de la part de, non pas des enseignants, mais de la part des ministres, des gouvernants, de Pétain qui était à la tête de l'État français. Et ça se traduisait par des pressions très fortes, hein, pour faire passer une idée, des idées dans la tête de ces enfants.
Donc les programmes scolaires étaient très contrôlés en fait.
Oui, ils étaient contrôlés. Alors après, il y a le degré d'autonomie, d'indépendance des enseignants qui contournaient souvent ces obstacles. Mais on a eu des manuels scolaires et des consignes très strictes. En particulier, l'hommage au maréchal Pétain.
Allez, Nina, c'est à toi.
Mais est-ce que eux, vu qu'ils savaient que c'était la guerre, mais ils étaient quand même tristes que leur famille ou leurs amis partent. Mais est-ce que pour eux, c'était vraiment compliqué?
Tu as tout à fait raison, Nina. C'était compliqué parce que pour un certain nombre de ces enfants, le père n'était pas là. Quelquefois, ils étaient obligés de se cacher, par exemple, soit les enfants de résistants ou les enfants qui étaient des enfants juifs et qui étaient poursuivis parce que juifs. Ils ont dû se cacher, donc c'était très très dur pour eux. Ils ont subi aussi, comme leurs parents, quand ils étaient en France, les bombardements, et donc ils devaient se cacher. Mais en même temps, le plus compliqué, d'une certaine façon, c'était moins les bombardements eux-mêmes et les destructions, si évidemment ils restaient, ils n'étaient pas tués, ils n'étaient pas blessés, mais c'est éventuellement la séparation avec les parents. Quand les parents les envoyaient à la campagne, curieusement, en sécurité d'une certaine façon, mais comme ils étaient séparés des parents, mais ils ne se sentaient pas en sécurité. Les enfants avaient besoin de ce que Boris Cyrulnik appelle un milieu sécure. C'est-à-dire qu'on est avec ses parents et on joue finalement de la guerre. On joue au milieu des ruines parce que quand on est un gosse, on n'a pas, on se pose pas la question des bombes qui vont exploser. On est immortel d'une certaine façon. Et de jouer au milieu des ruines avec les copains et de se retrouver avec papa et maman après, c'est sécure. Si en revanche, on est à la campagne, loin des bombes, mais aussi loin des parents, on se dit, mais non seulement, qu'est-ce qu'on fait là? On est loin des parents, et en plus, on a peur pour les parents qui, eux, sont restés sous les bombes.
On a le temps pour une dernière question, elle sera pour Paul.
Est-ce que les enfants avaient des armes pour se protéger?
Non, non, là, c'est... Ils n'avaient, eux-mêmes n'avaient pas d'armes, évidemment, pour se protéger. Et heureusement hein, qu'on ne donne pas des armes à des enfants. Malheureusement, il y a d'autres pays et d'autres régimes et d'autres périodes où on a armé les enfants et ça a été une catastrophe.
Merci beaucoup, Denis Péchanski. Vous êtes historien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, directeur de recherche au CNRS. Vous êtes aussi président du conseil scientifique du Mémorial de Caen. Oh, merci aussi à nos petits journalistes, Paul, Nicolas et Nina. À vous, Estelle Faure. C'était France Info Junior en partenariat avec Un jour une actu sur France Info.